Chapitre 25. Le capitaine Winstanley débuta dans sa nouvelle position avec la résolution bien arrêtée d'en tirer le meilleur parti possible et avec une perception très nette des bons et des mauvais côtés de l'affaire. Pendant 7 ans, il devait être maître de tout, ou du moins sa femme devait être maîtresse, ce qui pour lui revenait au même. Personne n'avait le droit de lui demander compte de l'emploi des revenus provenant des biens du baronnet, et cela pendant 7 années. Lorsque Violette atteindrait sa majorité à 25 ans, toutes les propriétés devaient passer entre ses mains, mais le testament ne disait pas un mot des revenus pendant sa minorité. Si Violette se mariait demain, son mari devrait la prendre sans fortune. Le baronnet n'avait pris aucune disposition en vue du mariage éventuel de sa fille. Son mari n'aurait donc pas un sou à toucher avant qu'elle eût atteint ses 25 ans. Et si elle venait à mourir avant sa majorité, les biens appartiendraient à sa mère. Le domaine était magnifique. Indépendamment des propriétés de la New Forest, il y avait des fermes dans le Wiltshire et le Dorsetshire, le tout produisant un revenu de 5 à 6 000 livres. Avec ce revenu, avec l'abbaye et toutes ses dépendances absolument vierges d'hypothèques, le capitaine se voyait en paradis terrestre. Mais au bout de 7 années, il faudrait quitter cet Éden, ou du moins vivre à l'abbaye avec un revenu fort restreint. 1 500 livres par an dans une pareille demeure, c'était presque la misère. De plus, à la mort de sa femme, il perdrait tout. Il avait la bosse du calcul, et il en profita pour peser le fort et le faible de sa situation. Il voulait jouir de la vie, assurément, c'était sa faculté maîtresse, le talent qui ne lui avait jamais fait défaut. Mais il voyait bien que son premier devoir envers lui-même était de mettre de côté. Il lui fallait de l'argent pour parer au mauvais jour, un capital disponible au moment où Violette Tempest, ce qui ne pouvait pas manquer, userait de tous ses droits et le dépouillerait de tout pouvoir, de tout avantage. Le seul moyen d'arriver à son but était de diminuer les dépenses actuelles et de restreindre immédiatement le train de l'abbaye. Car le capitaine avait découvert que sa femme, incompétente en affaires, insouciante dans les questions d'argent, avait régulièrement dépensé la totalité de ses revenus depuis la mort de son premier mari, tantôt pour le monde, tantôt en voyage, en dentelle, en vieille porcelaine, en toilette, en fleurs rares. Son écurie était 3 fois plus grande qu'il n'était nécessaire. Puis un train de maison avec une quantité de bouches inutiles, des charités faites sans discernement, sans même l'ombre d'une idée, uniquement parce que la veuve du baronnet était incapable de dire non. Tout cela était ruineux. La première réduction du capitaine Winstanley avait été la vente de Bullfinch, que Lord Mallow, un jeune vicomte irlandais, avait payé 300 guinées. Cet argent fut déposé chez le banquier du capitaine, qui entendait bien grossir sérieusement ses dépôts avant l'expiration des 7 années. Un matin qu'il déjeunait en tête-à-tête avec sa femme dans la bibliothèque, il lui raconta ses plans financiers. Le capitaine et Mrs. Winstanley déjeunaient toujours seuls, car Violette se levait de bonne heure, elle était toujours partie lorsque sa mère pensait seulement à se montrer. Le capitaine lui aussi était matinal, et la moitié de son travail était fait lorsqu'il s'asseyait à 9 heures en face de sa femme pour le déjeuner. « J'ai pensé à vos poneys, mignonne, » dit-il d'un ton aimable, dégagé mais caressant, tout en se servant une tranche de saumon. « Ne croyez-vous pas qu'il serait sage de s'en défaire ?»« Oh, Conrad !» s'écria sa femme, « à quoi pensez-vous ? Me séparer de mes poneys ?» Et, tout à son étonnement, elle laissa l'eau de la bouilloire couler dans la théière et déborder sur la table. « Ma chérie, combien de fois les attelez-vous en une année ?»« Pas très souvent, peut-être. Depuis quelque temps, je n'aime pas beaucoup conduire. On rencontre continuellement des charrettes chargées de foin ou de paille, et dont les conducteurs s'occupent fort peu d'un accident. Mais j'adore mes poneys gris, ils sont si jolis, ils ont la tête tout à fait arabe. C'est du moins ce que dit le colonel Carteret, et vous savez qu'il a été en Arabie. Mais, ma chère Pamela, croyez-vous raisonnable de garder des poneys parce qu'ils sont jolis et parce que le colonel Carteret prétend qu'ils ont la tête arabe? Lui qui se connaît en chevaux presque autant que moi en mégalosaure. Avez-vous jamais calculé ce qu'il vous coûte? Non, Conrad, je me ferais horreur si je passais mon temps à calculer le prix des choses. Oui, c'est parfait, en théorie. Mais s'il vous plaît de gaspiller l'argent, il doit vous plaire aussi de savoir combien vous en gaspillez. Ces poneys vous coûtent au moins 150 livres par an, car vous pourriez avoir un homme de moins à l'écurie. C'est certainement beaucoup d'argent, répondit Mrs. Winstanley, qui détestait conduire et ne le faisait que parce que c'était la mode et qu'il fallait bien faire comme les autres. Mais l'idée de renoncer au luxe, qui lui paraissait inséparable de son rang, l'a choquée, l'a blessée profondément. « Je ne vois pas pourquoi nous nous fatiguerions à discuter la dépense des écuries, dit-elle. Depuis mon mariage, elles ont toujours été tenues sur le même pied. Pourquoi changer maintenant ? » ?»« Ne voyez-vous pas que vous devez songer à l'avenir, Pamela ? Ce magnifique revenu que vous dépensez avec tant de prodigalité... » « Edward ne m'a jamais accusé d'extravagance, » interrompit Mrs. Winstanley tout en larmes. « Sauf pour la dentelle. Il me disait prodigue lorsqu'il s'agissait de dentelle. » « Ce beau revenu sera réduit dans 7 ans à 1 500 livres par an, chiffre qui, joint au mien, ne pourra pas vous permettre de vivre décemment dans une maison comme celle-ci. Vous voyez bien, Pamela, que si nous n'économisons pas une somme d'argent considérable avant la majorité de votre fille, nous serons obligés de quitter l'abbaye et de diminuer notre train de vie. « Quitter l'abbaye ? » s'écria Mrs. Winstanley, terrifiée. « Mais Conrad, je vis dans cette maison depuis mon mariage. » « Je le sais très bien, ma bonne chérie, mais vous serez quand même contrainte de la quitter pour prendre une maison plus modeste, si vous n'avez que 1 500 livres pour vivre. » « Ce serait trop d'humiliation, je n'y survivrai pas. » « On pourra éviter cela si nous faisons des économies raisonnables pendant ces 7 années. »« Alors vendez mes poneys, Conrad, vendez-les immédiatement, je ne veux pas qu'ils nous ruinent. »« Mais cependant, si vous prenez absolument un vrai plaisir à les avoir, ma chère Pamela, je m'en voudrais de les vendre, » dit le capitaine, qui, sûr d'avoir gagné son procès, faisait mine de lâcher prise. « Un vrai plaisir, pas précisément, ils m'ont causé de terribles frayeurs. « Alors nous les vendrons immédiatement au Tatters Hall, avec la voiture. »« Violette se sert de la voiture avec Titmouse, » objecta Mrs. Winstanley. « Nous pouvons garder la voiture. »« Ma chérie, je me sépare de vos poneys par raison d'économie. »« Supposez-vous que je garderai un poney pour votre fille ?»« Non, Titmouse partira aussi. Cette vente nous épargnera un homme et un garçon à l'écurie. » Violette est trop souvent à cheval pour avoir besoin d'un poney attelé. Elle aime beaucoup Titmouse, plaida la mère. Elle prodigue ses caresses aux quadrupèdes. C'est un penchant qu'il ne faut pas encourager. J'écrirai ce matin au Tatters Hall au sujet des 3 poneys. Et en même temps, j'y enverrai le grand cheval brun de Bates. Bates peut monter un de mes chevaux. Cela réduira l'écurie à 5 chevaux, mes 2 chevaux de chasse, Arion et votre attelage. 5 chevaux, soupira Mrs. Winstanley toute pensive. Je me demande l'effet que feront ces grandes écuries lorsqu'il n'y aura que 5 chevaux dedans. Elles étaient si belles, si pleines de vie et de mouvement quand je me suis mariée et que le baronnet me suppliait de l'accompagner dans ses tournées matinales. Les chevaux tournaient si gracieusement leur tête en entendant sa voix, de si belles bêtes aux yeux si intelligents. « Vous serez plus riche sans ces belles bêtes si intelligentes, » appuya le capitaine. « Maintenant, chérie, allons visiter les jardins. Vous verrez les améliorations qui ont apporté de jeunes et habiles jardiniers. » Mrs. Winstanley poussa un petit soupir plaintif en se levant pour appeler Pauline. Ces bons vieux jardiniers, ces hommes qui lui paraissaient presque plus attachés au sol que les arbres centenaires du jardin, ces fidèles serviteurs blanchis sous le harnais, avaient été chassés pour céder la place à 2 jeunes Écossais robustes, dont le dialecte était de l'hébreu pour la maîtresse de la maison. Elle souffrait de voir ces étrangers à l'œuvre sur ses terres. Elle se demandait si elle était chez elle. Ses regards indifférents tombant sur elle la mettaient mal à l'aise. À peine se souciait-elle de visiter ses serfs. Son cœur se serrait à la pensée que les vieux serviteurs de son mari avaient été chassés au moment où ils étaient affaiblis par l'âge, sans que l'on eût souci de leur vieillesse, sans qu'on leur eût fait une pension. Ces changements, cependant, lui étaient connus et avaient même été, pour ainsi dire, faits avec son consentement. Ou, du moins, le capitaine l'avait traqué jusqu'à ce qu'il eût obtenu ce qu'il désirait. Elle n'avait pas assez de force pour affirmer hardiment ses droits et dire « Je ne veux pas, cette injustice ne sera pas commise ». Il avait aussi apporté des modifications dans la charité et les bonnes œuvres du château. Les pauvres de Beechdale et des hameaux voisins, qui toujours et tout naturellement s'étaient tournés vers l'abbaye comme la fleur vers le soleil, n'osaient plus se présenter à l'office pour demander un secours dans un moment de gêne. Le capitaine entendait en finir avec ce qu'il appelait la charité à tort et à travers. Sa femme souscrivait désormais aux institutions convenablement organisées, écoles, sociétés maternelles, cuisines populaires, bons de pain, de soupe et de charbon, distribués par des comités bien administrés, à toutes les formes de bienfaisance méthodiquement et régulièrement établies. Mais les procédés du bon samaritain ne cadraient pas avec les vues du capitaine Winstanley sur la charité. Le nom de sa femme fut maintenu sur toutes les listes imprimées, comme au temps où elle était Mrs. Tempest, il y tenait. Son amour-propre y était engagé. Mais c'en était fait de la glorieuse renommée des cuisines de l'abbaye. Les portes de l'office furent fermées aux malheureux. « Ma chérie, je ne m'étonne pas que vous ayez dépensé vos revenus jusqu'au dernier sou, » disait le capitaine. « Vous aviez une maison montée sur un pied irlandais. Je puis concevoir ce train-là chez un O'Donoghue ou un chevalier de Glynn. Mais je n'aurais pas cru rencontrer tant d'insouciance dans la maison d'un gentleman anglais. » « Je crains que Trimmer ait été un peu extravagante, » répondit Mrs. Winstanley. « Mais je me suis abandonnée à elle, la sachant toute dévouée à mes intérêts, la pauvre âme. Elle est si dévouée que dans un an ou deux, elle vous aura menée à la banqueroute. J'ai examiné soigneusement les livres depuis 10 ans, et ils témoignent d'une dépense absolument ruineuse. Je crois lui avoir fait suffisamment comprendre que dans l'avenir, elle devra conduire ses dépenses d'une toute autre manière. Vous l'avez bien fait pleurer, la pauvre femme. » Ses yeux étaient tout rouges lorsqu'elle est sortie de votre cabinet. « Pleurez !» répéta le capitaine avec dédain. « Elle est si grasse que la plus petite émotion la fait fondre. Ce n'est pas de l'eau, mais c'est de l'huile qui coule de ses yeux. » « Cette bonne Trimmer, » murmura Mrs. Winstanley, « voilà 20 ans qu'elle est honnête et fidèle. Et si elle a encore 20 ans à vivre, elle le sera bien davantage pendant ces 20 dernières années. » Je ne veux pas la renvoyer, c'est une excellente cuisinière. Et maintenant qu'elle sait qu'elle ne doit plus jeter vos provisions par la fenêtre, elle deviendra, je crois, une très bonne ménagère. Du reste, je la surveillerai de près, je vous jure. J'ai été pendant 3 ans économe dans notre messe, et je sais parfaitement ce que doit coûter par tête la dépense d'une maison. « Oh, Conrad, lui dit tristement sa femme. « Vous parlez de nous comme si l'abbaye était un établissement quelconque, un workhouse ou quelque affreuse institution de ce genre. Ma chérie, un homme sensé doit savoir régler une maison particulière aussi bien que les directeurs d'un établissement public savent gérer les intérêts qui leur sont confiés. » La pauvre Mrs. Trimmer avait quitté son nouveau maître le cœur bien gros. Elle était si abasourdie qu'elle se retira dans son petit parloir d'allée donnant sur la cour des écuries. Et là, sûre de n'être ni vue ni entendue, elle se laissa aller à ce qu'elle appelait une bonne larme, pleurant et criant tout son soûl. Ce ne fut que plus tard, après le dîner, qu'elle put communiquer ses chagrins à Forbes et à Pauline. Elle avait eu avec le capitaine une vraie passe d'armes. Mais il résultait de son propre récit que la résistance avait été assez molle. Il avait épluché les comptes des 10 dernières années, des comptes où ni le baronnet ni sa femme n'avaient jamais mis le nez, des comptes parfaitement à jour sans doute, mais qui témoignaient d'une certaine braderie. Elle n'y regardait pas et le capitaine n'avait pas hésité à lui dire que ses dépenses étaient scandaleuses. « Si vous n'êtes pas content, monsieur, je ferais peut-être mieux de m'en aller », avait répondu la vieille cuisinière, tremblante d'indignation. « Si vous trouvez quoi que ce soit de malhonnête dans mes comptes, je ne dormirai pas une nuit de plus sous ce toit, bien qu'il soit le mien depuis près de 40 ans. J'étais déjà cuisinière ici du temps du vieux baronnet le père. Mais je ne resterai plus une heure ici, non, bien certainement. Je n'ai pas suspecté votre honnêteté, Trimmer. Les comptes sont en règle, je n'en doute pas. Mais ils n'en montrent pas moins un gaspillage d'argent inqualifiable. Si vous n'êtes pas satisfait, monsieur, je partirai. Cela vaudra mieux pour tous les deux. Je suis prêt à partir sur l'heure, si vous le voulez, ou bien je finirai mon mois, si ma maîtresse le préfère. Vous êtes une vieille sotte, je ne veux pas que vous partiez. Je ne suis pas mécontent de vous, mais bien du train de la maison, vous donnez beaucoup trop. Pas un morceau de pain sans que ma maîtresse le sache, s'écria la vieille Trimmer. J'ai toujours dit à Mrs. Tempest ce que je distribuais tous les matins, en fait de pain, de soupe et de vin, même pour les restes de la veille. J'avais la permission de faire tout ce que je faisais. « Je ne suis pas assez forte pour juger moi-même des besoins des pauvres, me disait-elle. Mais je veux qu'on y veille et je m'en rapporte à vous pour ce soin. »« Très bien, Trimmer, ce système doit cesser à partir d'aujourd'hui. Votre maîtresse contribuera à toutes les œuvres de charité locales. Elle donnera au vicaire du vin pour être distribué dans les cas urgents, mais cette maison ne sera plus le magasin d'approvisionnement du village. » Personne ne doit entrer à la cuisine pour demander quoi que ce soit. Comment, monsieur, pas même en cas de maladie? Non, les pauvres sont toujours malades, c'est leur état normal. En tout cas, quand il y a quelque chose à gagner à être malade. Il y a des hôpitaux pour les soigner. Ma maison n'est pas une infirmerie, comprenez-vous? Oui, monsieur, je comprends qu'il faut changer tout ce qui se faisait du temps de mon dernier maître. Précisément, les dépenses doivent être maintenues dans certaines limites. Il faudra se passer de 2 ou 3 servantes. Il y en a au moins 3 de trop. Choisissez celles que vous voulez garder, donnez aux autres un mois de gage et remerciez-les immédiatement. Je n'aime pas avoir autour de moi des gens qui vont partir. Ils ont un air bourru et hargneux qui me déplaît. « Est-ce tout, monsieur ? » demanda la vieille cuisinière en s'essuyant les yeux avec son tablier blanc. « Oui, c'est tout pour le moment. Ah, un instant, quel gage ma femme vous donne-t-elle »« 60 livres par an, » répondit Trimmer, qui s'attendait à une diminution de salaire. « Je vous en donnerai 70 alors. » Cette faveur inespérée porta à son comble l'indignation de la Trimmer. Elle sentait ce qu'il y avait d'avarice dans cette feinte générosité. « Merci, monsieur, mais je n'ai jamais demandé d'augmentation. » « Et je n'ai pas besoin de cela pour rester ici, » répondit-elle avec dignité. « Cependant, si tout doit être bouleversé, peut-être serais-je trop bouleversé moi-même pour demeurer à votre service. »« Comme vous voudrez, » reprit le capitaine avec indifférence. « Mais en attendant, prenez bonne note de mes recommandations au sujet des mendiants et des quémandeurs de toutes sortes, ainsi que des 2 ou 3 fainéantes qu'il faudra renvoyer. » Toutes les semaines, j'examinerai vos comptes et je paierai moi-même les fournisseurs. Ils ne sont pas habitués à cela, monsieur. Eh bien, ils s'y habitueront. Je paierai les comptes toutes les semaines. Apportez-moi votre livre le samedi matin à 10 heures. C'était une révolution. Trimmer, Forbes et Pauline restèrent à table longtemps après leur dîner, causant de ce naufrage d'une bonne vieille maison. « Je savais que les choses changeraient, disait Pauline, mais je ne croyais pas que cela irait si mal. J'estimais que ce serait tout le contraire, qu'il y aurait un grand train de maison, que l'on recevrait beaucoup. Quelle ladrerie ! Refuser une assiette de soupe à une famille malheureuse ! Probablement, lorsque mon oncle ou ma tante viendront me voir, il ne me sera pas permis de leur offrir une simple tasse de thé, ce serait contraire au nouveau système. » « Avec ce que je gagne, dit Mrs. Trimmer, je n'ai pas de quoi donner une miette de pain. »« Dieu merci, dit Pauline, j'ai encore de quoi offrir à mes amis une tasse de thé avec un peu de sucre. Mais ce n'en est pas moins une avarice ignoble. Je ne serais pas étonné qu'il lui fît vendre à une marchande à la toilette les robes qu'elle ne porte plus. » « Il demandera peut-être la clé des caves, » dit Forbes, « quoique je les ai depuis 20 ans. » Fin du tome 1er.